Je m'appelle Michel, je suis dans le Var. Les incendies commencent. Il devait se passer un tas de choses, soi-disant, l'année dernière. Mais enfin, bon, c'est toujours pareil. Les incendies commencent. Et puis j'ai appris que mes camarades de l'EDF, GDF, eh ben ils ont coupé le EDF. Alors bon, ça va être voté, c'est sûr, puisqu'ils sont, ils ont la majorité. Mais ils continuent, les camarades. Ils sont toujours là, sur la brèche. Et puis, de toute façon, rien n'est jamais fini. Rien n'est jamais acquis, je crois. Alors, ben, qu'on se retrousse les manches. Je te souhaite de bonnes vacances. J'espère te retrouver, parce que les temps ont l'air difficiles. Ciao, et merci à tous. Au revoir. Salut, mes camarades.
Allô, il fait chaud aujourd'hui. Il fait très, très chaud. Eh bien oui, il y a des personnes qui sont perchées sur le toit du baron. Et pour elles, depuis vendredi 16h30, le temps est long avec de moins en moins d'eau, certainement pas beaucoup à manger ou plus du tout, et surtout sur ce toit en pente pour leurs revendications, pour un cordon sanitaire, pour de l'eau, du pain, avec Et en rappelant que ce que nous le défendons pour tous. Et que nos actions ne connaîtront pas de pause. Voilà, c'est un message de quelqu'un qui est pour l'instant dans l'ombre et qui pense à ceux qui sont au soleil. Eh bien, n'hésitez pas à appeler le standard du MEDEF au 01 53 59 19 19 afin de demander pour nos amis du pain, de l'eau et de la négociation et un cordon sanitaire. Merci. Bisous à tous.
Salut Daniel. Salut à tous. C'est Fred de la campagne Tourangelle. Bah écoute, je te téléphone pour juste espérer que tu sois là à nouveau au mois de septembre à la rentrée, quoi. Surtout pour toi et surtout pour nous. Et puis la deuxième chose, c'est en espérant que France Inter ne se transforme pas encore en RTL ou en Europe 1, je sais pas quoi, pendant les vacances d'été. Donc bonnes vacances à tous et puis j'espère à bientôt. Ciao.
Oui, salut Daniel. On veut faire un petit rappel, là, c'est Mickaël du collectif de soutien d'urgence aux réfugiés à Calais. Quand le centre de Sangatte a fermé en novembre 2002, des centaines de migrants sont retrouvés à la rue sans rien, victimes du froid, de la faim et des innombrables violences policières qui avaient pour but de les décourager de rester dans le Calaisis. Alors que l'hiver 2002-2003 était particulièrement vigoureux, nous avons été de nombreux militants à héberger des sans-papiers. Et pour ces actes purement humanitaires, deux copains à nous, Jean-Claude Lenoir et Charles Framzel, surnommés Moustache, ont été interpellés et mis en examen pour aide au séjour irrégulier. Ils devaient passer en procès le 1er juin, et ça a été reporté, et donc le procès a lieu jeudi 1er juillet, à 8h30 du matin, au tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer. C'est complètement incroyable et indigne d'une démocratie. Arrêter, mettre en examen et juger des hommes qui ont évité que d'autres hommes ne crèvent de faim et de froid dans la rue. En France, il faut le savoir, la loi interdit d'aider des sans-papiers, puisque cela s'assimile à de l'aide au séjour irrégulier. Pour protester contre ce principe complètement absurde, inhumain, violemment antidémocratique, et pour soutenir nos deux camarades, nous espérons être très nombreux au rassemblement ce jour-là, le 1er juillet, au tribunal de Boulogne-sur-Mer à 8h30 du matin. Merci à tous.
Un pur bonheur que ce reportage sur les années rouges et noires italiennes. Beaucoup de questions soulevées, sans esprit polémique, mais avec tout ce qu'il faut pour remettre l'histoire à l'endroit. Le groupe Ziga Vertov disait « Il n'y a pas d'histoire juste, il n'y a juste que des histoires. » Et c'est ces histoires que tu as su, Daniel, faire revivre si fort que l'on part en vacances un peu moins orphelin de toi. Continue ainsi longtemps à nous ravir. On t'embrasse très fort, ainsi que toute l'équipe de la Bastille-Suisse.
Merci, merci, merci. Sauf qu'aujourd'hui, je ne sais pas si l'histoire est juste, je ne sais pas si c'est juste des histoires, mais on vient d'apprendre, comme vous tous, que la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris s'est déclarée favorable à l'extradition de Cesare Battisti. On a suivi avec vous cette affaire. On est au terme d'un long longue enquête avec Francesco Giorgini en Italie, dans l'Italie des années 70. Et il y a quelque temps, on avait fait un entretien avec Cesare Battisti aujourd'hui, qui n'est pas très connu à l'époque. Aujourd'hui, évidemment, l'affaire a pris les proportions que vous savez. Alors, on va passer cette heure avec des réactions hein, puisque cette nouvelle est tombée en début d'après-midi. On va avoir des réactions du président de la Ligue des droits de l'homme, de Guy Bedos, de Daniel Pénac, de BHL également, et d'autres personnes qui sont impliquées dans cette affaire, dans ce soutien à Cesare et Battisti. Et puis, si on a suffisamment de temps, on reviendra sur cet entretien, ce portrait que Cesare Battisti avait fait avec nous. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la Bassu, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, ici Jean-Pierre de Rabastinsk. Hein. Hier soir, là, la télé nous a montré à nouveau l'affaire des Moulinex. Donc, ça nous rappelle un peu ce que vous aviez dit dans votre émission modeste et géniale à la fois, quand même. Et donc, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est enfin de se poser la question, est-ce que ces patrons-là, il ne faut pas enfin les inquiéter pour mise en danger de la vie d'autrui, surtout à ce que les licenciements produisent des suicides ou des divorces, etc. On connaît l'histoire par cœur. Et donc, il faut faire quelque chose à présent. Allez, salut à tous.
Oui, Daniel, bonjour, c'est Annie. Je te téléphonais à propos de l'émission sur l'Italie. Moi, d'abord, je voulais te dire que j'étais mariée avec un Italien, que j'aurais bien aimé que mon beau-père, légèrement fasciste, entende ce genre de choses. Et puis, je voulais dire surtout à ceux qui sont contre cette émission, c'est qu'ils ont bien tort, parce que s'il y en a qui peuvent être tentés par le terrorisme, après avoir entendu ton émission, je crois que c'est fini. On est écœuré. Non seulement on sent bien qu'ils sont manipulés, mais en plus, quand on entend parler le gars qui a descendu Moreau, franchement, c'est écœurant. Voilà. Eh bien, j'espère qu'on te retrouvera surtout en septembre, Daniel, parce que on a besoin de ton émission. Allez, bonnes vacances à toi. Au revoir.
D'abord, Les années de plomb, c'est pas seulement un mauvais titre, mais c'était un mauvais film de la vingt trottin, et donc je partage pas du tout cette dénomination-là.
Salut, c'est Daniel Mermet, la Bassu, j'y suis.
Devant le palais de justice de Paris, les amis de Cesare Battisti expriment leur colère. Guy Bedos est en larmes. L'écrivain Daniel Pénac dénonce une décision qui va à l'encontre de tous les réfugiés. La cour d'appel de Paris a mis moins de 2 minutes pour rendre sa décision. Avis favorable à l'extradition. Déjà, le garde des Sceaux, Dominique Perben, avait fait savoir qu'il respecterait l'avis de la cour. C'est désormais au Premier ministre lui-même de signer le décret. Les avocats de Battisti devraient logiquement se pourvoir en cassation, ce qui suspend la décision d'extradition. Mais cela ne résout pas la situation de la petite communauté d'anciens activistes italiens qui vit en France depuis le milieu des années 80. Ils sont aujourd'hui une dizaine. Devant les grilles du palais, l'un d'eux crie sa colère. Brièvement, ses camarades commencent à chanter l'international. Devant le palais de justice de Paris, Grégory Philips, France Info.
Voilà le spot de France Info, vous l'avez entendu tout à l'heure. Voilà ce qui s'est passé donc aujourd'hui. Et on va entendre les réactions d'un certain nombre de personnalités, de personnes qui ont soutenu Cesare Battisti par rapport à cette extradition. Et on va commencer par Catherine Jégou, qui est conseillère de Paris et élue communiste.
Catherine Jégou, je crois que vous êtes sortie du palais de justice, vous êtes juste devant. Quel est le climat, l'ambiance, comment on reçoit
début,
cette nouvelle?
Il y a eu beaucoup de réactions des Italiens qui sont même pris un petit peu, ils se sont énervés après les journalistes et tout ça, parce qu'ils étaient tous dans un tel état que, bon, oui. Il y a quelques petits échauffourées qui ne sont pas forcément excellentes. Et après, bon, bah, ils se sont mis à jouer de l'accordéon, à chanter des chansons révolutionnaires avec les cordons de CRS, à boucher le boulevard, et puis après, les CRS ont très doucement fait repousser tout le monde sur le terre-plein sans qu'il y ait d'accident.
Et vous avez assisté à la décision, hein, à l'audience.
Oui.
Racontez-nous.
Oh, bah, écoutez, on faisait tous la queue pour essayer de rentrer. Puis finalement, ils ont fait rentrer tout le monde au moment du rendu du délibéré. Donc, il y avait une attente extrêmement tendue, hein, puisque personne ne savait ce que ça allait donner. Et donc, le juge, tout à fait calmement, a dit, considérant la convention de Schengen, considérant X, Y, Z, tout, il a énuméré tous les documents sur lesquels il se basait. Donc, considérant tout ça, la Cour rend un avis favorable à l'extradition et transmettra le dossier au garde des Sceaux. Enfin, moi, j'ai trouvé que déjà, au milieu de la déclaration, il commençait à sentir le vent. Il était extrêmement tendu, avec le visage très fermé, et Baptiste aussi.
Pour vous, c'est une décision d'abord politique?
Oh bah oui, là c'est clair. Hein. Quelquefois il y a des dossiers qui sont un peu vaseux et tout ça, mais là le dossier est en béton, aussi bien en termes de documents qu'en termes d'argumentaire juridique. Enfin, bon, moi je suis pas juriste, mais c'était flagrant pour tout le monde, quoi. Et donc là vraiment, c'est une décision politique, ça c'est clair et net. Ça veut dire que c'est à la fois le droit d'asile qui est foulé aux pieds d'une façon énorme, et déjà dans d'autres domaines il l'est déjà. Ça veut dire aussi que l'autorité de la chose jugée n'a plus aucun sens. Ça veut dire qu'on peut faire comme ça, laisser vivre des gens, et qu'il y a la parole de l'État n'a plus aucun sens non plus. Et quand on se rend compte que ça représente pour ces gens-là qui sont là depuis 20 ans, qui ont fondé une famille, qui aujourd'hui ont peur d'être arrêtés du jour au lendemain, à qui on renouvelle pas leur titre de séjour alors qu'ils travaillent, qu'ils ont réintégré, qu'ils ont ces gens complètement normaux et qui sont là depuis 20 ans, c'est affreux. Hein. Ça veut dire qu'ils jettent à la face du monde, là, ils jettent à la face du monde le fait qu'on leur donne des ordres de l'État. Et ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de gens dans les métiers de la justice, des magistrats et tout ça, qui vont quand même se sentir légèrement mal à l'aise. Hein. Parce que c'est quand même leur éthique, leur métier et tout l'édifice sur lequel la justice française est fondée qui est foulé aux pieds de façon évidente.
Alors il faut rappeler que Cesare Battisti est qualifié d'ancien terroriste d'extrême gauche, qu'il est réfugié à Paris depuis de nombreuses années, presque 15 ans maintenant, qu'il a été condamné dans son pays à la prison à perpétuité pour meurtre, que les jugements qui l'ont condamné sont sujets à caution, et c'est une polémique entre la France et l'Italie, et en Italie même, et en France même. Et il faut rappeler aussi qu'en 1985, Catherine Jégou y faisait allusion, le président François Mitterrand s'était engagé à ne pas extrader les anciens activistes d'extrême gauche italiens qui avaient rompu avec leur passé de violence. Et ça a été le cas évidemment de Battisti. Ce qui est vrai, c'est que les réfugiés italiens qui étaient tout à l'heure devant le palais de justice de Paris ont de quoi s'inquiéter, parce qu'en effet, puis si on extrade Battisti, eh bien ils auraient de bonnes raisons de s'inquiéter, et ils auraient peut-être eu tort de penser que la France était une terre d'asile. La déclaration de Mitterrand en 1985 a été faite à l'occasion de l'anniversaire de la Ligue des droits de l'homme. Le président de la Ligue des droits de l'homme, Michel Toubiana.
Alors, Michel Toubiana, quelle est votre réaction à l'annonce ?
Oh, écoutez, une profonde déception, surtout lorsque l'on voit des magistrats faire fi des principes les plus élémentaires en matière juridique. Mais en réalité, le problème est en infamant. Cette affaire n'aurait jamais dû être engagée, tant il est vrai que la parole de la France avait été donnée et que le président de la République n'aurait pas dû laisser cette affaire se produire, ni même débuter. Et c'est donc à lui, maintenant qu'il convient, quels que soient les recours qui vont être engagés, de dire il n'est pas encore trop tard, que cela suffit.
Donc vous renvoyez la balle dans le camp de l'Élysée.
Son prédécesseur à l'Élysée avait engagé la parole de la France. Je sais bien que pour certains hommes politiques, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et nous avons la faiblesse de croire, pour ce qui concerne la Ligue des droits de l'homme, qu'il existe une éthique, y compris en politique, et que la parole donnée au nom de la France engage non seulement celui qui la donne, mais ses successeurs.
Est-ce que cette décision vous surprend ?
Oui, elle me surprend, parce qu'elle fait litière d'un certain nombre de principes juridiques. Non, elle ne me surprend pas, compte tenu des actions exercées par le garde des Sceaux, et compte tenu de l'air du temps. Ça met en tout cas en exergue le fait qu'il y a d'autres réfugiés italiens qui risquent de se retrouver dans cette situation. Ce qui est le plus détestable dans tout cela, c'est l'incertitude qui pèse sur des familles entières, le tout pour satisfaire à des petits services entre amis politiques que sont le gouvernement français et le gouvernement politico-mafieux qui règne actuellement en Italie.
Alors, dans le soutien à Cesare Battisti et contre l'extradition de Battisti, on trouve aussi bien des élus communistes d'extrême gauche que des socialistes comme Julien Drey, des comédiens, des artistes, des écrivains. Puisque faut le rappeler, Cesare Battisti est écrivain, il écrit des romans policiers. Et la petite communauté des auteurs de polar n'ont pas manqué évidemment de le soutenir. Et puis il y a des gens qui sont pas du tout à gauche, mais alors pas du tout encore moins à l'extrême gauche, comme Bernard-Henri Lévy. Oui, Bernard-Henri Lévy.
Oui.
Vos réactions sur l'affaire Battisti, sur le jugement qui vient d'être rendu?
Ben écoutez, je suis extrêmement choqué, hein. Comme vous le savez, je l'ai dit l'autre soir dans cette réunion publique organisée au théâtre de Montmartre. Je ne sais pas moi si Battisti est innocent, bien entendu, et je ne partage pas les idées de Battisti, mais il y a un doute. Quand quelqu'un nous dit qu'il n'a pas commis les meurtres qui lui sont imputés, il est présumé innocent. Deux, on est en train de l'extrader dans le seul pays d'Europe où un procès par contumace ou une condamnation par contumace ne peut pas être rejugé. Autrement dit, on l'envoie, les juges français aujourd'hui l'envoient directement à la case prison à vie, sans possibilité de s'expliquer, sans possibilité de se défendre. Comme vous le savez aussi, sur la foi d'un procès bâclé, tenu il y a quelques années en Italie, qui lui-même reposait sur les accusations d'un repenti, c'est-à-dire d'un terroriste qui, en échange d'une exemption de peine, en chargeait un autre, en l'occurrence Cesare Battisti, qui lui était en fuite au Mexique. Donc tout ça est extrêmement préoccupant, extrêmement choquant, et je vous répète, il ne s'agit pas de savoir, moi je suis ni juge ni flic. Je ne sais pas si Battisti est coupable ou innocent, mais je sais qu'en droit français et en droit démocratique, tant qu'un homme n'est pas convaincu de sa culpabilité, tant qu'il n'a pas pu se défendre, il est présumé innocent. Aujourd'hui, il va aller en prison. J'espère que les autorités politiques, que Dominique Perben, le garde des Sceaux, est un humaniste, c'est un homme attaché au droit. Il sait que même si l'Italie est un pays démocratique, ce qui va de soi, elle porte l'Italie dans son code pénal aujourd'hui des séquelles d'un certain nombre de périodes anciennes, avec des dispositions qui sont tout à fait choquantes et qui sont contraires au droit dans lequel nous baignons. Donc je suis convaincu qu'à la chancellerie, on est conscient de cela. Je suis convaincu qu'on en est conscient ailleurs, au sommet de l'État, et j'espère que cette extradition n'aura pas lieu. Ce serait véritablement quelque chose de très choquant.
Voilà, Bernard-Henri Lévy dans la basse, j'y suis. Une autre réaction, celle de Guy Bedos, qui s'est engagé dans cet soutien à Battisti et qui était tout à l'heure à 14h devant le palais de justice à Paris. Guy Bedos, je voulais avoir vos réactions suite à la décision de justice pour Cesare Battisti.
Qui était avec nous. Je suis triste parce que j'ai le sentiment. Je suis entré là-dedans, non pas en tant qu'histrion, mais en tant que droit de l'homiste, comme disait Juvenement. Et je suis entré là-dedans comme tant d'autres, et puis on s'est retrouvé à faire un, comme dans l'ancien temps, hein, une soirée de soutien au théâtre de l'œuvre. Et puis après, j'ai rencontré Battisti, etc., etc. Bon, ben voilà, je suis triste parce que j'ai passé une partie de la nuit à parler avec un mec l'autre jour, et puis là, je l'ai rencontré dans la rue, je l'ai ramené au bistrot. C'est lui qui nous remonte le moral, parce que effectivement, il est libre pour le moment. Ça va passer en cassation, mais je suis pas du tout rassuré par la cassation, et j'ai le sentiment que c'est un déni de justice, car la France de M. Chirac fait cadeau d'un type et d'autres types, d'autres femmes qui ont été reçues il y a 20 ans ici, qui n'ont commis aucun délit, qui se sont intégrées à la société française, mais on va en faire cadeau à l'Italie de M. Berlusconi. Et d'après ce que je sais, il a été jugé par des tribunaux qu'on peut qualifier d'exception et accusé de meurtre par des repentis, par des dissociés qui ont sauvé leur peau, parfois qui ont été travaillés par la torture, etc., etc. Et rien ne prouve que Cesare Battisti est le monstre que l'on veut bien nous présenter. Donc voilà, mais je n'ai qu'une intime conviction. si j'ose dire, j'y étais pas, hein, moi. Je sens, y compris dans la presse d'ici, une espèce d'agressivité vis-à-vis de ceux qui défendent Battisti, du genre de quoi vous vous mêlez, vous êtes des intellectuels parisiens, de toute façon l'Italie, on veut en faire un match de foot entre l'Italie et la France. Alors on est en Europe ou pas? Alors, on est en Europe, donc c'était jugé à Paris, en France. Donc en Europe, c'est normal que certains, belles âmes, ces meufs, voilà, à tort ou à raison. À tort ou à raison, si on arrive à me prouver que Battisti est un monstre sanguinaire, je ferai mon mea culpa.
Ok, ok. Qu'est-ce qui va se passer selon vous maintenant?
Ben, moi, vous savez, j'ai fait spectacle, j'ai pas fait droit. Mais d'après certains qui savent, ben c'est la cassation. On n'en attend pas grand-chose. Il est en liberté pour le moment. Ça va durer 6 mois. Il y a des recours de toutes sortes, la Cour européenne des droits de l'homme, etc. Et puis des actions politiques. Et très franchement, à l'âge que j'ai, moi je me suis trouvé dans des situations pour défendre des types dont on était persuadé qu'ils étaient victimes d'erreurs judiciaires, etc. Du temps de Simone Signoret, je parle de mes copains disparus, Montand et les autres, et les autres, et Claude Mauriac, et Michel Foucault, etc. Mais on avait des relais, médiatiques, on avait des relais politiques. Là, ça se bouscule pas. Moi, je trouve que ça relève des questions à l'Assemblée nationale. Question au gouvernement, etc. C'est M. Perven qui fait cadeau de Battisti à son homologue italien.
Et pourquoi selon vous, Guy?
Je ne sais pas.
Vous allez me dire que vous avez fait spectacle et que vous n'avez pas fait politique.
Je ne sais pas très bien quoi vous dire parce que, très fortement, j'ai l'impression que le ciel se vide de plus en plus et là, à la seconde où je vous parle, je suis un peu découragé.
Guy Bedos, donc, réaction à l'acceptation, l'extradition de Cesare Battisti. Alors on a beaucoup parlé du point de vue italien, de l'opinion italienne, mais faudrait pas croire non plus que l'Italie dans son ensemble réclame Battisti, en fait un terroriste et un assassin. Nous avons avec Francesco Giorgini rencontré Francesco Cossiga, l'ancien président de la République, ancien président du Conseil, ancien ministre de l'Intérieur, lors de l'affaire Aldo Moro, aujourd'hui sénateur à vie, qui, sur l'affaire Battisti, nous a dit, oui, oh, c'est plus le moment, c'est une affaire, il n'y a plus de raison de faire ce genre de demande d'extradition, ça ressemble à de la vengeance, ça ressemble à de l'entêtement, et lui, Cossiga, avec d'autres, a milité pour l'indulto, ce que les Italiens appellent l'indulto, c'est-à-dire, non pas l'amnistie. L'amnistie, ça veut dire, on efface les crimes. L'indulto, ça veut dire, on reconnaît le crime, mais il n'y a pas de peine. Et Cossiga a milité en vain pour cette issue par rapport aux événements et aux violences et aux crimes de cette époque aujourd'hui révolue. Donc voilà, c'est pas tous les Italiens, pas tous les intellectuels italiens, pas tous les journalistes italiens, pas tous les juristes italiens qui demandent Battisti et qui donnent raison au garde des Sceaux italien qui est un élu de la Ligue du Nord, c'est-à-dire un parti pas fasciste, mais presque. Voilà le point de vue de Valerio Evangelisti, écrivain, qui depuis 1000 ans nous donne son point de vue.
Je suis un écrivain français qui s'est battu, italien, pardon, qui s'est battu pour Cesare Battisti. Parmi le peu qui est en Italie, on fait la même chose.
Première question, quelle réaction à l'avis positif pour l'extradition?
Une réaction de scandale. On confiait que la justice française était meilleure que celle italienne, mais je vois que je me trompais. Évidemment, les juges français ont subi des pressions politiques si fortes qu'ils ont oublié les droits. Le cas de Cesare était très clair à mes yeux. On a choisi de répéter un jugement sur une matière déjà traitée, ce qui est un affront parmi les plus grave au droit. On a choisi d'ignorer tout ce qu'on avait révélé à propos du procès scandaleux que Battisti avait eu en Italie. On a choisi, en un mot, de servir le pouvoir politique et non pas la justice.
Alors, pour ce qui est des réactions italiennes, vous pensez que cette décision fera plus de gens heureux en Italie que des gens malheureux?
Ah oui, sans doute, sans doute. En plus, ici, comme en France, on a un pouvoir politique en crise qui a besoin de petits succès de ce type. Et le fait que soit sacrifiée la vie d'un innocent n'importe réellement à personne, parmi ceux qui sont au pouvoir et parmi ceux qui sont patrons des médias. Donc je crois qu'il y aura une retombée triomphale très brève, puisque c'est un argument qui va être marginal dans quelques jours. Mais en tout cas, on prendra ça comme un succès dans la lutte au terrorisme, tout ça, sans connaître presque rien de la question Battisti, sans connaître rien sauf les déformations scandaleuses de la presse et des médias, pareil à celles qu'on a vues en France.
Voilà le point de vue de Valerio Evangelisto. Un autre écrivain, un autre point de vue d'un homme qui n'est pas lui non plus, comme dit Bedos, ni j'ai pas fait de politique, dit-il, j'ai pas fait justice, c'est Daniel Pénac. Daniel Pénac, vos réactions?
Mes réactions vont absolument à tous les réfugiés politiques de quelques pays qu'ils sont, quoi, qui se trouvent actuellement en France. Ils ont des soucis à se faire. Tout se passe comme si... Enfin, on verra bien comment le gouvernement réagira. Après tout, il peut peut-être aussi refuser in extremis l'extradition, mais c'est, si ce n'est pas le cas, j'ai, en tant que citoyen, j'ai le sentiment, comme ça, d'appartenir à un pays où dorénavant tous les réfugiés politiques de tous les pays, encore une fois, quels qu'ils soient, que ce soit, je sais pas, moi, des Birmans, des Irlandais, des Chinois, des Italiens, tout ce que vous voulez, ont du souci à se faire. Si Battisti est extradé, tous ces gens-là sont dorénavant au fond d'un grand sac où on les choisira les uns après les autres et on les monnaiera au gré des circonstances. Je ne sais quels participeront, je ne sais quel type d'échange, ils seront monnaie d'échange. Voilà quoi.
Daniel Pénac, on vous dit que vous êtes angélique, que vous soutenez un terroriste.
Je ne soutiens pas du tout un terroriste, je soutiens l'ensemble des, à travers un exemple, de type qui se trouve sur notre territoire, je pense à l'ensemble de tous les réfugiés politiques qui sont là depuis plus de 10 ans, qui y ont fait des enfants, qui se sont mariés, qui ont déposé les armes depuis au moins 15 ans, qui, etc., etc. Et c'était le cas de celui-ci, c'est le cas de quantité d'autres. Dorénavant, ils sont effectivement extradables.
Alors, un qui est extradable aussi, c'est Oreste Scalzone, qui est un de ces réfugiés italiens. Ils sont quelques dizaines en France. Et Oreste Scalzone, c'est une grande figure de ces années 70. C'est toujours le plus présent, le plus engagé en France dans cette histoire. Il nous donne en quelques mois, c'est une réussite de notre part, parce que c'est très difficile de l'arrêter quand il se met à parler. C'est toujours passionnant, mais enfin, on a réussi à avoir son point de vue en quelques mots.
D'abord, on pense aux autres 2 personnes, camarades de destin, Roberta Capelli et Enrico Villimburgo, dont on sait depuis les premiers jours de mars, même avant, qu'ils ont, sous le coup de menace, qui se rassemble un peu. On a dit putsch judiciaire. Les putsch, ils existent, on les fait. Pas nous, d'autres, c'est évident. Moi, je trouve passionnant la bataille juridique, c'est pas de la technique aride. Mm-hmm. C'est, ça me fait penser parfois à la partie d'échecs du commencement du film de Bergman, le 7e saut. Ça peut être une partie fatale. Et c'est pas, nécessairement perdu. Et c'est toujours un vaisseau en papier. Les avocats ont fait le maximum dans une pertinence absolue. Après, c'est la force, c'est la raison d'État, et c'est une raison d'État spécialement aberrant, abjecte.
Voilà, tout n'est jamais perdu, reste Skelson est fidèle à lui-même, et fidèle évidemment à son camarade Cesare Battisti. Et Cesare Battisti, on va le retrouver. On va le retrouver maintenant, mais comme nous l'avions rencontré avant toute cette histoire-là, on l'avait rencontré, on s'était intéressé à l'extradition de Persichetti, vous vous souvenez, il y a 2 ans, donc on avait commencé à s'intéresser à ces années 70, on aura peut-être le temps de réécouter Isabelle Sommier, une sociologue française qui a fait un travail universitaire très patient sur ces années et qui donne un sens d'ailleurs au reportage à l'enquête que nous avons faite tous ces jours derniers. Voilà donc Cesare Battisti tel que nous l'avions rencontré alors qu'il nous disait être un papy en cavale.
Disons que oui, je me sens comme un papy en cavale presque quoi. Ouais, ça fait tout bizarre. Recommencer à être en cavale 30 ans après, 25 ans après, waouh, c'est pas évident, quoi, c'est pas évident. Je me sens presque ridicule parfois. Il y a des moments où je dis, attends, mais c'est vrai ça, ou alors, c'est pas vrai, quoi, c'est une BD, c'est quoi cette histoire-là? Même parce que c'est difficile à en parler avec mon entourage, les gens qui sont les plus proches, ils comprennent pas. Ils disent, mais attendez, mais vous, monsieur, mais ça va pas. Même les bars, les bistrots en bas, ou mon libraire, etc., il dit, non, mais qu'est-ce que tu me racontes là? C'est pas possible si tu racontes là. Tu plaisantes. C'est un roman qu'il est en train d'écrire, ça. Et parfois, je renonce. Et je fais presque, je dis, oh oui, en fait, non, ça va, laisse tomber. J'ai 48 ans. Je suis né dans la région de Rome, dans une ville latine, ça s'appelle. C'est la plaine pontine.
Une famille, alors j'ai lu quelque part, une famille religieusement communiste.
Oui, parce que c'est un peu à l'italienne, c'est-à-dire stalinien et catholique. Et il y avait Dieu et puis il y avait Staline. Et c'était presque la même chose.
Milieu modeste.
Ah oui, paysan. J'étais le petit dernier. Et donc c'était moi qui devais aller à la fac et tout cela. Et en réalité, je n'ai même pas terminé le lycée parce que j'étais arrêté en terminale.
J'ai été arrêté ou j'ai arrêté?
Non, j'étais arrêté. J'étais en prison.
Ah.
Oui, j'étais mineur, mais j'étais en prison. Je ne me souviens plus, à moi ou deux, je ne me souviens plus. Et c'était une manif, le Vietnam, c'était l'époque du Vietnam. Donc c'était des manifs, en Italie, il y en avait tous les jours. Et puis voilà quoi. Et donc c'était l'époque des années 70, l'autonomie ouvrière, l'OTAN continua et toute la mouvance d'après 68.
Alors là, il faut évoquer ce que ça a été en Italie, parce que nous, en France, on a eu mai 68, et puis après quand même une retombée après mai 68, et puis on a eu Action Directe, etc. Mais c'est sans comparaison avec ce qui s'est passé en Italie au cours de ces années 70, hein, ce qu'on a baptisé les années de plomb, on était proche de la guerre civile.
Bon, d'abord, les années de plomb, c'est pas seulement un mauvais titre, mais c'était un mauvais film de la Ventrotin, et donc je partage pas du tout cette dénomination-là. C'était pas des années de plomb, c'était des années d'abord de fêtes, de culture, d'initiative, de créativité, parce que avant les armes, il y a eu quand même un grand, très grand mouvement culturel que je pense était le plus important de l'après-guerre en Europe. Et donc c'est cela qu'on cherche à effacer et on parle que des armes. C'est ça les pièges en fait. À cette époque-là, en Italie, il y avait des usines comme la Fiat, par exemple, parfois totalement sous le contrôle des comités autonomes. C'est-à-dire que il y avait les comités autonomes qui géraient des usines comme la Fiat. La réduction du temps du travail, la cantine, Les temps qui restaient, la réduction c'était 4 heures par jour, et le reste du temps c'était employé pour des activités créatives, récréatives. On faisait des ateliers d'écriture, on faisait des théâtres, on faisait des grandes bouffes, on faisait de la fête, on parlait des problèmes de la maison, des quartiers, etc. Il y avait des situations, les hôpitaux, les services, les transports, ils étaient contrôlés par les militants, par les organisations, par les groupes. Il y avait des assemblées générales où se réunissait toute mouvance politique de l'extrême gauche de l'époque. Quoi encore? Ben, il y avait des quartiers où il y avait, par exemple, l'autoréduction de l'EDF. Nous, on faisait des autoréductions, que ça marchait à niveau de masse. Hein. Et bon, on devait payer les mêmes tarifs des entreprises.
Les mêmes tarifs que les entreprises, il n'y a pas de raison. Oui. Voilà.
Pourquoi les privés devraient payer plus que les entreprises? Donc, on veut payer la même chose. Et ça marchait. Par exemple, on les prix, ce qu'on appelle les prix politiques. On a imposé à des magasins de vendre certains produits dans certains quartiers à un certain prix. Tout en calculant, parce qu'on était tellement beaucoup qu'il y avait des gens, il y avait des ingénieurs, on faisait les calculs, etc. Ils disaient, bon, là, par exemple, ce dentiste-là, lui, pourrait faire une couronne à la pauvre dame qui habite dans un quartier populaire, il va lui prendre 1 000 000 de lire. 1 000 000 de lire, c'est 10 fois plus de ce qu'il peut payer. Et donc, on calculait les frais du dentiste, mais même les impôts qu'il allait payer sur ça. Et puis, bon, vous, ça va être à 150 000.
Sinon?
Et bon, deux ou trois avertissements, et après, peut-être, on lui donnait un coup de clé anglaise sur la tête, peut-être, mais bon, pas plus à l'époque.
En fait, c'est quelque chose comme une guerre civile qui a traversé l'Italie entre 69 et 82. Histoire qu'on connaît peu en France, et qui en Italie passe pas, ça fait partie de ce genre de passé qui ne passe pas. C'est un peu comme si mai avait duré 10 ans dans ce pays. Les militants radicaux étaient alors des centaines de milliers, des milliers avaient choisi de passer dans la lutte armée avec ce que décrivait à l'instant César Battisti, braquage, enlèvement, procès populaire et aussi assassinat. Rien ne peut excuser évidemment le choix du terrorisme, ni excuser, ni justifier, mais on peut essayer de comprendre. Et ce que j'évoque là, si j'ajoute Brigade Rouge, si j'ajoute Prima Linea, eh ben, c'est la Terreur Rouge. Mais la plus violente fut, dans cette période-là, la Terreur Noire, exercée par des mouvements néofascistes, téléguidés par les services secrets italiens. Et aujourd'hui, après des années d'enquête, plus personne ne conteste cet aspect de l'histoire. Et certainement pas Isabelle Sommier, qui est sociologue, qui est maître de conférence de sciences politiques à l'Université de Paris 1, et qui est auteur de « La violence politique et son deuil » aux presses universitaires de Rennes. C'est sorti en 98. Isabelle Sommier.
Il y a effectivement une impression qui est souvent fausse, hein, qui est présentée la naissance du terrorisme en Italie au milieu des années 70 comme si ça surgissait de un peu de nulle part, un peu du néant, tiens, tout d'un coup, voilà, des individus se mettent à assassiner, à séquestrer, etc. Et c'est une vision qui est totalement fausse historiquement et puis surtout qui permet pas de comprendre à la fois que ce mouvement armé a été absolument unique, hein, sur la deuxième moitié du XXe siècle et puis sur l'ensemble de l'Europe, c'est certain que c'est une contestation armée qui est sans précédent. Hein. On ne peut pas comparer avec la France, avec Action Directe, ni même avec l'Allemagne, avec la fraction armée rouge. Hein. On ne peut pas la comparer parce que c'est un mouvement qui s'inscrit en fait sur 10 ans, qui va entraîner des milliers de personnes dans des groupes armés. Une période également où, au-delà des groupes qui ont été identifiés comme terroristes, Prima Linea, Brigade Rouge pour l'essentiel, eh bien, il y avait une frange de la jeunesse qui était favorable à l'usage de la violence et qui dépassait de beaucoup les rangs des dites organisations terroristes. Et puis, c'est un mouvement, effectivement, qui a marqué en profondeur l'Italie et que l'Italie refuse encore aujourd'hui d'affronter. C'est peut-être pas possible de dire sereinement, mais c'est un passé qui ne passe pas, que l'Italie ne veut pas regarder, analyser, pour voir l'ensemble des responsabilités.
Ouais, alors, c'est vraiment un cadavre dans le placard.
En fait, toute l'histoire, elle commence au moment de ce qu'on appelle le Biennio Rosso en Italie, les deux années rouges très marquantes, c'est 67-69. 67, c'est le début des révoltes étudiantes et des révoltes ouvrières également, hein, tout ça sur deux ans. Hein, et bon, c'est un processus que nous connaissons également en France, hein, de contestation à la fois étudiantine et ouvrière. Mais en France, on a un raccourci comme ça, un condensé sur quelques mois finalement en 68, alors qu'en Italie, eh bien, il y a deux grandes vagues de contestation ouvrière et étudiantine qui vont mettre en avant bon, des slogans qu'on a entendus également en France, hein, sur le pouvoir ouvrier, sur ouvriers, étudiants, tous unis, etc. Jusque-là, je dirais, c'est un processus
qui est quand même dans l'air du temps. Voilà.
Qui n'est pas fondamentalement différent. Mais il y a une différence majeure, et sa différence majeure, c'est un traumatisme, c'est un attentat. Le 12 décembre 1969, l'attentat de la Piazza Fontana, qui est un attentat à l'explosif, commis dans une banque et qui va faire plusieurs morts. Immédiatement, la police va arrêter des anarchistes, en considérant que c'est un attentat anarchiste. Et l'un de ces anarchistes arrêté immédiatement, Pinelli, va être défenestré par la police. Et les groupes d'extrême gauche, et même le Parti communiste, hein, dénoncent bien entendu cette défenestration, mais considèrent également que cet attentat n'est pas un attentat de facture révolutionnaire, anarchiste ou communiste, mais désigne un responsable qui serait l'extrême droite, parce qu'il faut savoir qu'en Italie, il y a un activisme néo-fasciste qui commence à devenir très virulent. Ce premier attentat est le premier attentat d'une longue série d'attentats commis par l'extrême droite, mais qu'en Italie on appelle les stragi di Stato, les massacres d'État, et ça s'est avéré plusieurs années après véritable,
historiquement prouvé.
Voilà, que ces attentats indiscriminés, aveugles, hein, sous la forme de bombes, avaient été commis effectivement par des groupes néo-fascistes, mais avec la complicité d'une partie de l'appareil d'État.
Donc des services qui sont intervenus directement dans la manipulation de ces groupes.
Absolument, oui. Je dirais pas que c'est l'ensemble des services secrets. C'est une partie déviante, sans doute, hein, de ces services secrets. Ça, très certainement. Et il est vrai également qu'au cours de cette période, il y a également des rumeurs de coups d'État. Alors vous en avez, il y a eu une première tentative en 70, il y en a une autre en 74. Donc on a, à la charnière des années 60-70, hein, on est dans un pays où il y a, c'est vrai, une situation assez anarchique du fait des grèves qui sont de très très grande ampleur. Et puis, un climat de plus en plus pesant qui va conduire certains groupes d'extrême gauche à se préparer à un éventuel processus de fascisation ou même de coup d'État en mettant en place des bras clandestins, parce qu'il faut aussi tenir présent à l'esprit qu'ils sont dans un pays que de toute façon n'a jamais totalement rompu finalement avec ce passé, en raison d'une épuration assez limitée, il faut bien le dire, des cadres dans l'armée, dans la police, issus de la période de Mussolini.
Voilà, et dans cette lutte armée à l'époque, eh bien, il y avait le jeune César Battisti, qui aujourd'hui a 48 ans, qui vit depuis 10 ans en France, qui craint d'être à son tour extradé et qui se souvient. Vous disiez, on s'est fait piéger par la lutte armée. Le gouvernement italien, dans les années 70, nous a petit à petit poussé vers la lutte armée. Est-ce que ça veut dire que c'était pas dans les intentions, ça faisait pas partie des recours des militants de l'époque?
C'est-à-dire que la situation était telle à l'époque que prenons par exemple les mai 68 en France et les 68 en Italie. La France a répondu d'une autre façon à cela. C'est pour cela qu'en France, on n'a pas eu 10 ans de guérilla comme en Italie. Parce que la France a répondu d'une autre façon. Je ne vais pas maintenant faire l'avocat de la France, mais la riposte de la France n'était pas brutale et militaire comme en Italie. La répression en Italie était telle qu'à un moment donné, il y a eu des personnes, que je respecte toujours, qui ont pensé qu'alors la seule solution, c'était se défendre. Parce que vous savez, quand vous voyez, vous marchez dans la rue et il y a votre ami à côté qui tombe parce qu'on lui a tiré dans la nuque, eh ben, c'est très très difficile de garder le calme, hein. Donc voilà, je parle de cette Italie-là, je parle du début des années 70. Quelqu'un qui à l'époque avait 20 ans ou 25 ans, vous croyez que c'est qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas dire bon ben jusqu'à hier je n'ai pas voulu toucher une arme, mais aujourd'hui je vais la prendre parce que c'est moi oui. Donc oh, je vais pas me laisser tuer comme ça, parce que quand un pays ne respecte pas la Constitution, quand un gouvernement qui ne garantit plus la liberté et les droits de ses citoyens, les citoyens ils ont les droits de se rebeller, et si c'est là, c'est à travers les armes, pourquoi pas? Or, cela dit, ça c'est de la théorie. Dans la pratique, je sais que on s'est fait piéger. Je sais que on a fait un pas trop long, et à un moment donné, c'est exactement ce qu'ils attendaient de nous, et là ils nous ont massacrés. C'est vrai qu'il y avait des différences entre nous. Il y avait plusieurs organisations en Italie. On a répertorié à cette époque plus de 100 organisations armées.
100 organisations armées.
Plus.
Armées,
oui, oui. On a répertorié plus de 100 organisations armées. 5 quelques, je me souviens plus bien. Bon, les plus importants sont 4 ou 5. Dont les Brigades Rouges, Prima Linea, les Prolétaires Armés pour le Communisme, Action Révolutionnaire, etc. Moi, par exemple, j'étais dans une organisation dont les membres venaient de plusieurs des autres organisations et qui étaient un peu plus, un esprit un peu plus libertaire, si on pourrait dire marxiste, anarchisme. Bon, il y avait un avantage très varié, mais de toute façon, on était tous dans la même situation. C'était des milliers de personnes armées. Il y a ces organisations-là, elles pouvaient compter, les plus grandes, elles pouvaient compter avec quelques milliers de personnes armées. Je veux dire, c'était pas des groupuscules de 10 ou 15. Quand je parle de personnes armées, je parle de personnes qui étaient clandestins et qui menaient une guerre contre l'État.
Alors, en 74, vous avez été arrêté, vous avez été condamné pour des braquages.
Oui, en 74, c'est pour des braquages. À l'époque, moi, j'étais déjà sorti de la jeunesse communiste. J'ai fait un passage.
Vous avez quel âge en 74?
20 ans.
20 ans, pile.
Ouais. Donc, j'avais fait déjà un passage par l'Otta Continua. Et puis, j'ai commencé à avoir les premiers contacts avec ce qu'on appelle autonomie ouvrière en Italie. Donc, je commence à bouger un peu avec, j'étais très jeune, j'étais très chaud, et puis je bouge, quoi. Donc, voilà, on fait des braquages pour financer des choses. Des fanzines, il fallait de l'argent pour acheter des machines, des écrire et tout cela. Donc ça, c'était une pratique tout à fait normale en Italie à l'époque. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait, même à la jeunesse communiste, ils le faisaient. Même s'il est né maintenant. Mais bon. Voilà. Et là, je me fais arrêter sur un braquage, donc j'en ai pour plusieurs années, après, je suis sorti un peu en avance, j'en ai presque 3 ans de prison.
Ah, c'est pas mal, première expérience à 20 ans.
Ouais, ouais. Mais après, je sors de prison et je rentre en clandestinité. Donc voilà, quoi, ça démarre mon long voyage jusqu'à 79, où je suis arrêté à nouveau, cette fois-ci pour de bon.
Alors, en 79, donc, t'es arrêté et condamné pour 4 meurtres et 50 braquages. 50 braquages. Qu'est-ce que tu assumes dans tout ça, dans ces 4 meurtres, dans ces...
Moi, j'assume la responsabilité politique de ce qui a été fait par mon organisation, par moi-même et par toutes les autres organisations, par tout ce qui s'est passé dans les années 70 en Italie. Je l'assume politiquement de A à Z, parce que même si c'était des autres organisations avec lesquelles j'avais des différences, de toute façon, c'était une période historique bien précise, et j'assume cela, et je pense que il fallait passer par là. À tort, à raison, avec des erreurs ou avec de bonnes idées, mais c'était cette période-là et je ne pouvais pas renier tout cela. Je le revendique, je l'assume politiquement, mais je n'assumerai pas jamais les faits pénals, parce que ça c'est de l'histoire, l'histoire ne se fait pas dans les tribunaux. Je veux dire, je ne rentrerai jamais dans les détails. Moi, de toute façon, j'aurais refusé de répondre devant un tribunal.
En fait, 4087 militants ont été condamnés, 224 sont toujours en prison, dont 130 bénéficient du régime de semi-liberté, c'est-à-dire qu'ils sont libres dans la journée, ils vont dormir en prison. 190 sont en fuite et une centaine d'entre eux, à peu près, on ne sait pas exactement, sont en France, donc avec ce statut non officiel, mais de la parole donnée, donc je le disais tout à l'heure, autrefois par François Mitterrand, lors de son premier septennat, et puis successivement par 9 gouvernements. Revenons à César Battisti, cet écrivain, réfugié lui en France depuis 92, qui a été arrêté à la fin des années 70.
Je suis arrêté en juin 79, dans une opération où il y a une centaine de personnes qui sont arrêtées la même nuit. Donc, j'ai rentré dans le circuit des prisons spéciales à l'époque. C'était des prisons toutes neuves qu'ils avaient construites un peu partout en Italie. Et c'est là que, 2 ans et demi après, donc en octobre, le 4 octobre 81, un commando attaque la prison pour me libérer, je sors, je m'évade. Et là, c'est pas moi qui s'échappe tout seul. Hein. C'est, donc, il y a eu un commando bien assez nombreux qui ont pris la prison, en fait.
Et là, vous partez? Ouais, c'était pas dans le coin.
Et là, ça commence l'Odyssée, ça commence l'enfer. Pendant 2 mois, c'était vraiment l'enfer parce qu'on n'arrivait pas à passer la frontière et ils nous suivaient partout. C'était en plein hiver, en plus. On savait pas comment sortir. Ils étaient toujours derrière nous. Hein. Nous, on arrivait dans un endroit et les jours d'après, ils arrivaient vraiment 20-30 voitures de flics. Et donc, voilà, finalement, on arrive à passer cette frontière. C'était le mois de janvier. Sur les montagnes. Donc, il y avait la neige très, très haute. Hein. Et puis, bon, on arrive en France où on nous avait dit qu'il y avait une situation de réfugiés italiens. C'était déjà à l'époque Mitterrand, c'est déjà en janvier 82. Et Mitterrand, il avait déjà fait des déclarations dans le sens d'aider l'Italie à tourner la page et donc d'accueillir les réfugiés italiens.
Donc Mitterrand et ses conseillers, évidemment, ont pour politique vis-à-vis de vous de vous garantir la sécurité, hein, à condition que vous renonciez à toute activité politique, évidemment.
Mais je suis certain, si les camarades italiens venaient passer la frontière pour arriver en France, c'est parce qu'ils avaient renoncé. Mais depuis longtemps déjà, ils renoncé. Je précise que quand j'étais arrêté en 79, ça faisait un an que notre organisation était dissoute. Déjà, nous, on avait renoncé depuis un moment déjà aux armes, quand j'étais arrêté. Et voilà, quoi, comme je vis en France depuis, comme un citoyen normal.
Voilà, parole d'un papillon en cavale, Cesare Battisti. Je vous ai parlé tout à l'heure de Francesco Cossiga, l'ancien président italien, président ex-président du Conseil, ex-ministre de l'Intérieur, aujourd'hui sénateur à vie, Francesco Cossiga, sur ce qu'il pense de ces demandes d'extradition italienne et ce qui n'était pas encore fait de comment la justice française a satisfait à cette demande d'extradition. Voilà comment il répondait à notre question il y a quelques jours. Alors, parlons des mesures prises par le ministre de la Justice actuel, Roberto Castelli, qui lui demande à la France extradition de Persichetti, de Battisti.
Sì, lui è obbligato a farlo.
Il est obligé de le faire.
Sì, è praticamente obbligato a farlo. Ecco, devo dire che mi sembra una richiesta tardiva.
Je dois dire que je considère ça une requête hors temps limite.
Sono inutili.
Sono inutili.
Tra l'altro, far scontare la pena dopo tanti anni è una cosa inutile.
D'autant plus que faire payer la peine, faire escompter la peine après tant d'années, c'est strictement inutile.
Merci à tous, merci à Cesare Battisti, Michel Tubiana, Guy Bedos, Daniel Pénac, Bernard-Henri Lévy, Valerio Evangelisti, Catherine Jégou, Oreste Scalson et Isabelle Sommier. Le livre de Fred Vargas, La vérité sur Cesare Battisti, c'est aux éditions Viviane Ami. Il y a également un site www.mauvaisgenre.com, mauvais genre en pluriel tout attaché, mauvaisgenre.com. Plus d'informations sont à votre disposition sur le site de la base Sujissu. En allant sur franceinter.com. Technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos, Koyen Guyen, Yann Chouquet, Francesco Giorgini, Thierry Schaff, Pascal Yellow et Christophe Imbert. C'est la fine équipe de la basse J suis, dont le numéro du répondeur en tout cas est 01 56 40 37 37. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission. Modeste et génial.